critique.
Raphaël Bourgois.
Les idées au banc d'essai, Avis Critique explore toutes les disciplines et les indisciplines. Ce soir, comme chaque semaine, deux essais sous les feux de la critique, deux livres qui explorent les liens entre langue et idéologie. La langue comme discours pour Gérard Noiriel, l'historien signe Le Venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République aux éditions La Découverte. En rapprochant l'auteur de la France juive à la fin du 19e siècle de celui du suicide français au début du 21e, l'historien entend non pas mettre un signe égal entre les deux, mais tenter de comprendre les fondements de ce qu'il appelle un discours identitaire. La langue comme langage, celui qu'on utilise tous les jours et qui est aussi une marque de l'époque pour Frédéric Joly, l'essayiste et traducteur propose dans La langue confisquée, publiée par Premier Parallèle, de lire Victor Klemperer. Aujourd'hui, un retour donc sur le parcours et les écrits du professeur d'université allemand, juif, qui a traversé miraculeusement le Troisième Reich. Klemperer l'a montré, l'adhésion à un langage est toujours l'adhésion à une idéologie. Le lire aujourd'hui, c'est mieux comprendre ce que représente notre ère de la post-vérité. Et en studio, pour débattre, le retour de Jean Birnbaum du Monde. Bonsoir Jean.
Bonsoir.
Et l'arrivée de Béatrice Bougnol de La Croix, qu'on accueille très chaleureusement dans cette émission. Bonsoir,
bonsoir
Béatrice. Alors je vous propose de commencer par le livre de Gérard Noiriel, Le Venin dans la plume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et La part sombre de la République, publié donc aux éditions La Découverte. Gérard Noiriel est historien, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, le HESS, et il a travaillé sur l'histoire de l'immigration en France, du racisme, mais aussi de la classe ouvrière. C'est également un penseur du rôle et de la fonction de l'historien dans l'espace public. On lui doit récemment une histoire populaire de la France, de la guerre de 100 ans à nos jours, publiée chez Agone, un ouvrage qui lui a valu d'ailleurs un certain succès médiatique puisqu'il était sorti au plus fort du mouvement des Gilets jaunes. Le livre qui nous intéresse ce soir, Le Venin dans la plume, est une entreprise périlleuse pour un historien, rapprochée deux périodes, la Troisième République naissante de la fin du 19e siècle, avec notre vieillissante 5e République, et chercher à comprendre ce qui fait le succès public de deux pamphlétaires, donc d'un côté l'antisémite Édouard Drumont et de l'autre l'islamophobe Éric Zemmour. Rien que le rapprochement entre antisémitisme et islamophobie déjà tenté par exemple par le journaliste Edoui Plenel ouvre la voie à des débats sans fin, tant leur réalité et leurs manifestations semblent différentes, je suis sûr que ça va nous occuper un certain temps. Gérard Noiriel en est tout à fait conscient d'ailleurs et il tente d'enjamber l'obstacle en s'intéressant principalement à trois points qui rapprochent les deux hommes à travers les époques. Le premier est leur parcours, issus de milieux modestes. Ils sont des exemples parfaits, dit-il, de transfuges sociaux. Le second est leur défense d'une histoire identitaire. La France est une personne, un « nous » qui appelle un « eux », parfois désigné en son propre sein. Le troisième est d'avoir su exploiter les faiblesses des systèmes démocratiques, de la liberté de s'exprimer, l'expansion des journaux pour l'un, les chaînes d'infos continues pour l'autre, afin de diffuser leur idéologie. Alors Béatrice Bougnol, c'est un livre d'intervention, je le disais, né d'ailleurs d'un article paru dans Le Monde, un droit de réponse à Éric Zemmour qui attaquait les historiens, le savoir constitué en général, à longueur de page.
Oui, Raphaël, moi ce qui m'a beaucoup frappé dans cet ouvrage, c'est la leçon d'histoire finalement que donne Gérard Noiriel. Il me semble qu'avec cet ouvrage, il montre ce que peut l'histoire en fait, quel est le rôle de l'historien et de l'histoire face à ces discours identitaires. Gérard Noiriel, vous l'avez rappelé, est un historien engagé, comme on dit. Il s'inscrit clairement dans une histoire de l'éducation populaire, il a fondé une association, il travaille aussi avec des artistes. Tout ça pour...
Je le rappelle aussi, scénariste de Chocolat, par
Absolument,
exemple, pour
exactement.
Ceux qui auraient vu ce film.
Voilà. Il a notamment effectivement écrit cette biographie de Chocolat et vous faites bien d'y faire référence parce que dans l'introduction de cet ouvrage, il disait justement que il avait, j'allais dire, tout son parcours d'historien universitaire derrière lui, ce qui lui permettait d'aller vers des formats plus littéraires, de prendre des risques. Et dans l'ouvrage qui nous occupe aujourd'hui et dans l'avant-propos de cet ouvrage, Le Venin dans la plume, il s'expose aussi à nouveau, Gérard Noiriel, il parle de ses origines populaires, il parle de son lieu de vie actuel et il parle effectivement, comme vous l'avez rappelé, mais Raphaël, de son indignation face aux accusations d'Éric Zemmour qui accuse les historiens universitaires d'être finalement idéologues. Donc, ce qui m'a frappé finalement dans cet ouvrage, c'est combien Gérard Noiriel prend des risques. Vous l'avez déjà souligné, mais effectivement, le sous-titre même de l'ouvrage, finalement le résume, Édouard Drumont, Éric Zemmour et la part sombre de la République, il y a au moins trois risques premiers qu'on sent à la lecture du sous-titre et qui sont des reproches qui ne manqueront pas de lui être faits. Le premier, c'est une attaque ad nominem qui semble finalement éloigner l'historien de la distance que Gérard Noyelle va dire être le propre d'un historien face au jugement dans lequel ces polémistes se complaisent. Le deuxième, vous l'avez dit, c'est de sembler mettre sur le même plan l'antisémitisme de la fin du 19e siècle en France et l'islamophobie contemporaine. Et le troisième risque, c'est effectivement d'utiliser une comparaison qui est toujours suspecte en histoire d'anachronisme. Voilà, je crois que c'est ce qui va sans doute nous occuper, mais je pense pour ma part que le pari est réussi et que Gérard Noyelle donne une leçon d'histoire, mais voilà, ouvrons le débat.
Ouvrons le débat, Jean Birnbaum.
Oui, bah écoutez, moi je suis d'accord en partie avec ce qu'a dit Béatrice Bougnol, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui me touchent dans ce livre. Moi j'aime beaucoup Gérard Noyelle comme homme, j'ai lu quasiment tous ses livres sur le mouvement ouvrier, sur l'histoire de l'immigration. J'avais fait une pleine page dans Le Monde des Livres il y a quelques années où j'étais allé le voir, il m'avait raconté justement son propre parcours de transfuge, ses humiliations, son sentiment d'avoir toujours été étranger à certains groupes, au sérail académique, etc., etc. Donc il y a des choses dans ce livre, effectivement, qui sont émouvantes. Il y a une chose qui me plaît aussi, outre cet aspect autobiographique, une chose qui me plaît, c'est qu'effectivement, il prend le risque de prendre au sérieux une parole comme celle d'Éric Zemmour et donc une partie de la polémique contemporaine. Moi, il y a quelques années, j'avais fait un livre avec Raphaël Chevènement. On avait essayé de prendre au sérieux ce qui s'était dit dans l'émission de Thierry Ardisson qui s'appelait « Tout le monde en parle » et autour de moi, tout le monde avait rigolé en me disant « Mais pourquoi tu t'intéresses à ces conneries ?» etc. Je pense que c'est toujours un risque et c'est toujours très compliqué de se dire « Bah oui, surtout pour un historien comme Noyelle, de prendre au sérieux des choses qui ont l'air d'être vraiment les miettes ou les déchets de l'actualité ou de la polémique médiatique. Et en même temps, pour dire encore quelque chose de gentil, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes. Effectivement, je trouve que moi j'ai fait aussi plein de papiers contre Zemmour, très dur, etc. Et notamment, pas seulement sur ses positions sur l'immigration, mais aussi sur effectivement sa violence à l'égard des universitaires, du monde intellectuel. Et là-dessus, Noyelle a des propos qui sont intéressants. Il rend justice en partie aux sciences sociales, aux sciences humaines et à tous ceux qui les font vivre.
Et puis, il s'attaque à ce qui est une part d'impuissance aujourd'hui, qui est celle des chercheurs contre les polémistes. C'est-à-dire qu'on voilà. On sent bien qu'il y a un déséquilibre dans l'espace médiatique, qui rend les chercheurs souvent impuissants face aux polémistes. Et Gérard Noyelle essaie de trouver des solutions pour contourner ça.
Alors, il n'est pas sûr qu'il y réussisse. C'est-à-dire qu'en fait, à l'horizon, là, il faudra qu'on ait un peu de temps pour creuser. Le geste est intéressant. L'intention est bonne. Le résultat, à mon sens, est assez raté et même assez calamiteux. Et même dangereux politiquement. Ça, on y reviendra, je pense, un peu plus tard. Mais en tout cas, du strict point de vue méthodologique, il y a quelque chose qui est absolument frappant, c'est que en fait d'abord les sources sont très faibles. Quand il parle de Drumont, Gérard Noyelle, qui est quand même un historien qui a beaucoup travaillé sur plein de choses, mais là-dessus il a jamais travaillé sur Drumont, donc il cite essentiellement une seule source qui est le livre que Grégoire Kaufmann a consacré à Drumont. Sur Zemmour, il se fie aux enquêtes, auxquelles il y a quelques papiers dans les bonnes enquêtes dans Le Monde notamment sur Zemmour. Donc les sources sont quand même assez faibles, l'anachronisme est permanent, les rapprochements sont très faibles et surtout en fait jamais il ne justifie. En fait c'est ça qui est vraiment frappant. Qui saute au visage. Si on veut prendre sérieusement sa volonté, son désir de prendre au sérieux la parole d'Éric Zemmour, jamais il ne justifie le fait qu'il veuille comparer Zemmour à Drumont. Il commence comme si c'était une évidence qu'ils sont comparables, que c'était pareil, ou en tout cas que c'était très proche. Et donc toute la machine s'enclenche immédiatement avec une rhétorique qui tient comme un prérequis, comme un acquis que les deux sont comparables. Donc c'est toutes les phrases commencent par comme Drumont, Zemmour dit, etc. Drumont et Zemmour s'accordent pour dire que Éric Zemmour est d'accord avec son lointain prédécesseur pour affirmer que Zemmour enchaîne par rapport à Drumont en disant que, et même à un moment donné, page 110, Noyelle qui est pris dans sa propre spirale comme ça, absolument injustifiée et spécieuse, en arrive à dire, c'est une boutade, mais pas complètement, il dit que Zemmour devient une sorte d'émule de Drumont. Donc ça, c'est un vrai point. En fait, jamais, 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 il aurait très bien pu dire, moi, comme historien d'immigration, je vais démonter les préjugés et les propos fallacieux d'Éric Zemmour sur l'immigration, sur l'intégration. Moi, j'ai fait le creuset français, j'ai beaucoup de choses à dire, moi et Gérard Noyelle. Pourquoi être allé chercher Drumont? Il ne le justifie jamais. Et la démonstration qui tente de rabattre Zemmour sur Drumont n'est absolument pas convaincante.
Avant de donner la parole à Béatrice Bougnol, peut-être deux éléments sur ce que vous venez de dire, Jean Birnbaum. D'abord, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cette histoire de l'immigration? Parce qu'il l'a déjà faite et qu'il dit que c'est inutile, voire tout à fait impuissant face à Éric Zemmour. En tout cas, c'est son sentiment. Et peut-être aussi, juste un mot pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas aussi bien que vous, Édouard Drumont, Jean Birnbaum, il faut rappeler qui c'était, c'est-à-dire un polémiste antisémite qui avait écrit ce pamphlet qui est devenu un best-seller, La France juive, à la fin du 19e siècle, et qui a ici créé un journal, La Libre Parole, qui était un lieu véritablement d'invectives, de violences verbales et d'insultes contre les juifs, qui étaient accusés de tous les maux, contre la juiverie internationale, pour reprendre des expressions qui sont celles d'Édouard Drumont, et en effet, à qui Grégoire Kaufmann avait confié une biographie.
Vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, parce qu'en fait, comme il veut toujours, comme Gérard Noiriel, que par ailleurs, je vous dis, j'aime beaucoup, je trouve ce livre triste d'impuissance, justement, comme Gérard Noiriel veut toujours abattre Zemmour sur Drumont, en fait, il cite assez peu Drumont, sauf il cite ce qui pourrait avoir un vague rapport avec ce que Zemmour dit lui-même. Il faut rappeler juste d'une ligne.
Un mot, parce que Béatrice Bougnol
doit
vous répondre.
Drumont, c'est ça. Drumont, c'est des lignes comme celle-là. Quand il parle de la physiologie des juifs. Les principaux signes auxquels on peut reconnaître le juif restent donc ce fameux nez recourbé, les yeux clignotants, les dents serrées, les oreilles saillantes, les ongles carrés, le pied plat, les genoux ronds, la cheville extraordinairement en dehors, la main moelleuse et fondante de l'hypocrite et du traître. Ils ont assez souvent un bras plus court que l'autre. Il sent mauvais, il est sujet à toutes les maladies qui indiquent la corruption du sang. Mais par un phénomène que l'on a constaté 100 fois au Moyen-Âge et qui s'est affirmé de nouveau au moment du choléra, le juif paraît jouir vis-à-vis des épidémies d'une immunité particulière. Il semble qu'il y ait en lui une sorte de peste permanente qui le garantit de la peste ordinaire. Il faut juste conclure là-dessus, c'est-à-dire que chez Drumont, il y a un racialisme, un racisme, une attaque physiologique permanente. Et là, déjà, on est sur un terrain qui n'est pas du tout le terrain, par ailleurs, extrêmement condamnable et contestable, etc., de Zemmour, mais ça n'est pas du tout le même. Et il faudrait, d'emblée, il aurait fallu que Gérard Noiriel se justifie sur ce point.
Béatrice Bougnol.
Alors, il y a beaucoup de choses déjà dans ce que vous avez
dit.
Et
vous avez le temps pour y répondre parce que voilà. Jean a été très long.
Et évidemment, je ne partage pas en tout cas l'entièreté de votre analyse parce que vous dites qu'en fait, il ne justifie jamais son choix. Je pense que il le fait d'ailleurs à un moment. Il explique que c'est justement par ses travaux, notamment sur l'histoire de l'immigration, mais aussi sur l'histoire du racisme, qu'il a croisé les écrits de Drumont et que peu à peu, la comparaison lui a semblé flagrante. Donc, il n'est pas venu à cette comparaison totalement par hasard. Je pense également, pour répondre un peu point par point, mais on pourra développer un point ou l'autre selon vos souhaits, mais je pense aussi que il travaille en historien, et ça me paraît important, parce que quand je parlais d'une leçon d'histoire, c'est de ça que je voulais parler, c'est-à-dire que je trouve, contrairement à vous, qu'il confronte les discours, ceux de Drumont, ceux de Zemmour, qu'il revient justement aux mots, au texte, pour essayer de construire en fait cette comparaison. Et donc pour moi, elle est moins un postulat, j'allais dire, non justifié, comme vous le dites, qu'une construction qu'il construit peu à peu. Et c'est là-dessus que je voulais un peu développer, parce que je pense que la force justement de sa démonstration, elle repose sur les trois niveaux. Parce que en fait, il va montrer on va dire les similitudes un peu troublantes des parcours personnels d'Édouard Drumont et d'Éric Zemmour. Ça, c'est un premier plan. Effectivement, il va dire tous les deux sont issus d'un milieu populaire, tous les deux vont en revanche faire leurs études dans des milieux plus huppés.
Il y a une énorme différence. Il explique que Drumont est un échec scolaire terrible et que Zemmour pas du tout. Donc déjà, tout de suite, la comparaison se casse la gueule là-dessus.
Oui, alors... La comparaison, c'est plutôt sur le décalage, en fait, ce qu'on appelle le mépris de classe qu'ils peuvent ressentir tous les deux en faisant leurs études dans des endroits plus huppés que le milieu dont ils viennent au départ. Ouais. Tous deux vont vouloir, je vais très vite, hein, mais tous deux vont vouloir être écrivains et tous deux vont faire des carrières dans le monde médiatique. Ça, c'est un premier plan. Et j'allais dire, c'est finalement pas forcément le plus intéressant. Ce que va construire Noiriel à titre de comparaison, c'est la manière imaginaire dont les deux vont interagir avec un contexte. Donc évidemment, les contextes ne sont pas comparables, bien évidemment. Et vous avez raison de le rappeler, la France de la fin du 19e ne ressemble en rien à la France d'aujourd'hui. Mais la manière dont chacun des deux interagit avec ce contexte s'en sert finalement pour sa notoriété personnelle, ça, c'est ça que Noiriel compare. Et enfin, et ça je pense qu'on va pouvoir développer ensemble sur ce point-là, ce qu'il va encore une fois comparer, c'est la rhétorique. Voilà, il va s'intéresser, comme le rappelait Raphaël dans son introduction, à la manière dont les deux vont utiliser une certaine rhétorique pour construire effectivement un discours identitaire.
Bah justement, sa rhétorique, pardon Raphaël, mais sa rhétorique, le contexte, vous avez raison de le rappeler, est très différent. Il essaye, Gérard Noiriel, de façon très vaillante et valeureuse, mais assez vaine, de rapprocher ces deux contextes. Il a beaucoup de mal, et notamment sur la rhétorique, justement. Sur la rhétorique que je vous ai lue, là, il y a quelques minutes, n'a rien à voir avec celle de Zemmour. Là, c'est une rhétorique raciste, physiologique, qui attaque le corps des gens. Et surtout, c'est Eder, à un moment donné, il le dit lui-même, c'est assez beau, Noiriel dit, c'est un travail difficile, un travail laborieux, je tombe sur une difficulté. Il tombe sur plein de difficultés, il y a plein de moments où il dit, oui, bon là, ça marche pas, etc. Parce qu'il voit que ça ne marche pas, en fait, du tout, sauf à quelques trucs, moi je pourrais dire les endroits où ça marche. Mais sur la rhétorique, massivement, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, Drumont, c'est quoi? Drumont, c'est un contexte où il y a des ligues antisémites partout, des militants politiques partout, qui sont dans la violence contre les juifs physiques, des gens qui sont dans les rues, au moment où best-seller, où la France juive devient un best-seller, où ce livre, parce qu'il sera ensuite célébré par les nazis, par Vichy, etc., officiellement, etc., il faut voir ce que ça donne concrètement pour le corps des gens, parlons du corps des gens. Eh bien, à la fin du 19e, donc, Drumont, c'est un best-seller, avec des ligues partout, qui tapent les gens, qui sont violentes, etc., et c'est une rhétorique qui est centrée notamment sur le complot, il voit des juifs partout, Gambetta est juif pour lui, au sommet de l'État. Drumont est persuadé qu'il y a des juifs partout et que chaque loi votée de laïcité, de liberté de la presse, est une loi juive manigancée par les juifs. Est-ce qu'aujourd'hui Zemmour fait cela? Est-ce qu'il pense que Macron est musulman? Est-ce qu'il pense que Sarkozy était musulman? Est-ce qu'il pense que les lois sont votées par un complot musulman? Non seulement ça n'est pas le cas, mais même, et là il se tire une énorme balle dans le pied, le pauvre Noiriel, c'est qu'à un moment donné il parle des lois sur le mariage pour tous. Et il dit, Zemmour a un ennemi principal, c'est le lobby LGBT. Là, il parle même plus des musulmans, il dit le lobby LGBT. Il dit voilà, c'est l'ennemi principal pour Zemmour. Et Zemmour, en fait, il a, Noiriel a l'honnêteté de le reconnaître, Zemmour voit même derrière quelqu'un qui est emblématique des juifs, c'est-à-dire Simone Veil, c'est-à-dire qu'il s'en prend à Simone Veil. Vous savez bien qu'il a essayé de réhabiliter en partie Pétain, Zemmour, donc il s'en prend aussi largement aux juifs. Donc, en fait, Zemmour ne voit pas des musulmans partout, mais même derrière certaines lois, il voit d'abord plutôt les homosexuels, il voit l'effet d'une loi votée qui a été défendue par Simone Veil, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Mais le point sur lequel je veux insister, parce que c'est une différence massive, c'est que la rhétorique de Zemmour n'a rien à voir avec celle de Drumont, en tant que Drumont était obsédé par une minorité qui avait accaparé l'État, les sommets de l'État.
Alors encore une fois, c'est vrai que les périodes sont différentes et donc tout historien qui se lance là-dedans se risque aussi d'avoir cette critique d'anachronisme. Les périodes sont tellement différentes que Et Le Monde et La Croix sont devenus des journaux très 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 différents aujourd'hui, rappelons-le. Mais peut-être que Béatrice Bougnol, là où Gérard Noiriel met le doigt sur quelque chose, c'est d'abord sur une forme de brutalisation du discours, c'est ce qu'il explique. Alors c'est vrai que dans des termes qui sont évidemment très très différents, mais la violence est présente aussi chez Éric Zemmour. Rappelle les scènes à la télévision où Éric Zemmour, s'adressant à une femme noire en face de lui, lui dit « il y a la race noire, il y a la race blanche ». C'est quand même pas des choses très très agréables à entendre aujourd'hui. Il y a un racisme constitué aussi de cette façon-là chez Éric Zemmour, qui a d'ailleurs été condamné pour ça deux fois par un tribunal.
Et qui vient d'être condamné.
Oui, qui vient de re-être condamné par un tribunal. Donc il y a cette violence.
Vous entendez bien ce que je veux dire?
Oui, bien sûr.
On peut tout à fait combattre. J'ai fait un éditorial dans Le Monde des Livres qui s'appelait « Politique abject à l'égard de Zemmour ». On peut tout à fait combattre et critiquer violemment les prises de position d'Éric Zemmour sans le rabattre sur Édouard Drumont.
Alors voilà, allons-y sur ce parallèle, et peut-être en prenant un exemple assez précis, si vous le voulez bien, qui est cette idée d'histoire identitaire, c'est-à-dire cette volonté qu'aurait eu, selon Gérard Noiriel et Éric Zemmour et Édouard Drumont, de développer une histoire identitaire de la France, c'est-à-dire de faire de la France, non pas un collectif, mais un individu, une personne qui est avec son identité immuable. L'histoire qui repasse toujours les plats, c'est une expression qui revient souvent, voilà, avec son fondement catholique, la trahison des élites, qui sont aussi des idiots utiles, qui ne voient pas qui la trahison des Juifs d'un côté, qui l'invasion des musulmans de l'autre, Béatrice Bougnol.
Oui, je ne peux qu'être d'accord avec les arguments avancés par Jean Birnbaum. Encore une fois, sur la différence totale des contextes, ça ne se discute pas, et je pense pas que Noyel, une seule seconde, avec le parcours d'historien qu'il a derrière lui, comme vous l'avez rappelé, puisse le penser.
Ah bah quand on sort de son livre, on le pense. Hein. Mais enfin, le lecteur qui ne connaît pas tout ça le pense.
Alors,
ça, c'est sûr.
Moi, ce que je lis dans son livre et sur lequel il insiste, il me semble beaucoup à plusieurs reprises, c'est encore une fois la grammaire, en fait. Et effectivement, comme vous le disiez, Raphaël, la grammaire de ce discours identitaire. Donc, c'est pas tant, on va dire, son contenu précis comme celui que vous avez pu citer, que les règles, les grandes règles de la rhétorique. Et là, on peut revenir d'ailleurs sur, j'allais dire, peut-être trois principales qu'il distingue. Il y a évidemment cette opposition entre un « e » et un « nous ». Alors ce « e », évidemment, il peut changer, j'allais dire. Il n'est pas toujours racialisé, mais il y a toujours un « e », l'étranger, l'ennemi extérieur et intérieur. Et le « nous » en face, c'est le tenant d'une histoire effectivement immuable de la France, d'une France qui n'aurait pas changé, une France effectivement catholique et qui renie quelque part, qui rejette une multiplicité d'identités. Donc il y a cette opposition-là. Il y a aussi le thème de la décadence que Noiriel met en avant, c'est-à-dire l'idée qu'une France, cette France immuable, serait agressée de longue date par cet ennemi intérieur et extérieur, qu'il faudrait donc la défendre et que eux seraient en fait quelque part les justiciers, se mettraient dans la position d'un historien procureur par rapport à ça. Et la troisième règle de cette rhétorique, qui me paraît effectivement aussi intéressante, c'est ce que Noiriel va appeler la rhétorique de l'inversion. C'est-à-dire de dire finalement, ceux qui se présentent comme les dominés de l'histoire sont en fait des dominants. Et s'ils ont été persécutés, c'est parce qu'ils représentaient un danger. Et là, quand même, effectivement, il montre comment les deux, Éric Zemmour ou Édouard Drumont à la fin du 19e, reviennent même sur le massacre de la Saint-Barthélemy pour montrer qu'effectivement les protestants à ce moment-là représentaient un danger pour la nation française.
Jean-Pierre Beaune est bientôt au bout du temps
consacré. Il montre Noiriel rappelle que Zemmour reprend les choses, les préjugés ou les trucs sur la banque Rothschild, etc., comme le faisait Drummond, effectivement, quand il faut réhabiliter Pétain, ou quand il faut aussi reprendre les choses de Drummond sur la banque Rothschild, apparemment, il n'y a pas de problème. Mais donc, si vous voulez, Zemmour a des obsessions assez étendues, qui sont, mais il y a des choses assez rigolotes, si je veux dire. Il est tellement obsédé, Gérard Noiriel, par sa volonté de rabattre Zemmour sur Drummond, qu'il veut toujours comparer. Il y a des moments où, quand même, il se prend les pieds dans le tapis. Donc, je disais, sur le lobby LGBT, derrière les lois mariage pour tous, etc. Et puis, par exemple, sur la classe politique. Donc, ici, des choses de Drumont, comme je disais tout à l'heure, il voit des juifs partout, il pense que Gambetta est juif, tout est tenu par les juifs, la classe politique mène la France dans le désastre, la décadence, etc. Et c'est toujours les juifs derrière. Et là, vous avez une petite restriction dans la rhétorique de Noiriel. Il dit, même si le discours est moins virulent, Zemmour estime que depuis le général de Gaulle, aucun des grands dirigeants du pays, à gauche comme à droite, n'a été à la hauteur des défis que la France aurait dû relever. Voilà. Donc ça, c'est comparable à Zemmour de dire que aucun donc même si le discours est moins virulent, c'est juste qu'il est pas moins virulent, c'est que ça n'a rien à voir, rien.
Pour terminer, Béatrice Bougnol.
Oui, juste deux toutes petites choses sur la violence du discours. Évidemment, encore une fois, elle n'est pas équivalente. Et Noiriel l'explique d'ailleurs, même d'un point de vue purement juridique, en disant aujourd'hui les attaques ad nominem pour le coup que Drumont pouvait faire en son temps ne sont plus possibles. Et juste simplement pour compléter. Vous avez raison, c'est un exercice périlleux, ça c'est certain. Moi je trouve que au final, il y a, j'allais dire, que des mauvais coups à prendre dans cette affaire. Moi je salue le courage de Gérard Noiriel et la démonstration qu'il fait finalement d'une histoire laborieuse face à ceux qui font une histoire finalement non seulement identitaire mais un peu celle des vies illustres comme Éric Zemmour aujourd'hui. Il montre effectivement que laborieusement, en prenant des risques. L'historien est là pour nous appeler à la vigilance, finalement, c'est
oui,
ça.
Oui, juste un mot, Jean Bienbaume, avant de vous laisser conclure. C'est vrai que Gérard Noyelle est aussi investi dans un débat au sein même de la gauche entre ce qu'il appelle une gauche identitaire et la gauche qu'il entend incarner, qui s'intéresse plus à la question sociale. Voilà, c'est deux pôles qui sont très actifs,
parce que vous avez toujours aujourd'hui toute une partie de la gauche européenne, et pas seulement française. Le livre de Gérard Noyelle est incroyablement franco-centré pour plein de raisons, mais il y a toute une partie de la gauche qui aujourd'hui prend conscience qu'il faut prendre à bras le corps, notamment en Angleterre, etc., les questions dites identitaires, les questions dites religieuses aussi. Quand on voit la pauvreté incroyable de ce que dit Gérard Noyelle à l'égard de l'islamisme, du djihadisme, il réduit tout ça à une affaire justement totalement sociale, de quelques paumés en banlieue. Alors effectivement, quand vous voyez tout ce qui s'est passé, les puissances étatiques gigantesques et richissimes qui financent l'islamisme aujourd'hui, quand vous voyez la puissance du djihadisme, il réduit tout ça à quelques petits jeunes qui se sont baladés, mais c'est une énorme, vu la guerre d'Espagne, jamais la jeunesse européenne a été aimantée à ce point-là pour partir au risque de la mort, se battre au nom d'une cause, etc. Il réduit tout ça absolument à rien, à des petits problèmes de banlieue, de gens qui ont des problèmes sociaux, etc. Quand on voit la misère de son discours sur ces questions, on se dit que finalement, le poison dont il parle, c'est aussi un poison pour la gauche. Le venin dans la plume d'Éric Zemmour, c'est aussi la façon dont Noyelle en parle, c'est un poison pour la gauche, parce que ça l'enfume encore et encore. D'ailleurs, il y a un moment où Gérard Noyelle reconnaît, il le dit, que finalement, tous les discours politiques présentent une dimension identitaire. Et là, son discours politique à lui, sa tradition, c'est celle du mouvement ouvrier qui a donné une identité large à la gauche. Eh bien, il devrait s'apercevoir, comme d'autres gens à gauche aujourd'hui, que l'islamisme, dont il minimise tellement l'importance, eh bien, partout où il prend le pouvoir, partout où il a du pouvoir, eh bien, détruit en priorité cette identité-là, celle de la gauche et du mouvement ouvrier.
Alors vous pouvez écouter Gérard Noyelle qui était l'invité des Matins de France Culture le 9 septembre, voilà, comme ça vous ferez aussi une idée de son discours, et vous pouvez évidemment lire Gérard Noyelle, Le Venin dans la Plume, c'est aux éditions La Découverte.
France Culture, avis critique,
Raphaël Bourbois.
Pourtant c'est vrai, la surprise est de taille. Quel est le fin mot de cette histoire de fou allié? Y avait-il un défaut, un vice caché?
Vagalam de Vanessa Paradis, c'est sa dernière chanson. Vanessa Nadjar, notre réalisatrice et fan. Deuxième temps de l'émission, je vous propose de nous intéresser maintenant au livre de Frédéric Joly, La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui aux éditions Premier Parallèle. Essayiste et traducteur, notamment de Walter Benjamin, Frédéric Joly a signé en 2015 un Robert Musil tout réinventé aux éditions du Seuil, un essai biographique de l'auteur de L'homme sans qualité. Benjamin, Musil, Klemperer, il s'intéresse donc, Frédéric Joly, au témoin de cette période où s'effondre la civilisation germanique. Victor Klemperer s'est ainsi plus particulièrement intéressé à ce que le nazisme a fait à la langue allemande, ou pour être plus précis, au langage, les mots inventés ou tordus, les inversions sémantiques, s'insinuent au cours des années 30 dans les échanges, la littérature, et forment une réalité nouvelle tout entière marquée par cette idéologie. L'universitaire, juif, professeur de philologie romane à l'université de Dresde depuis 1920, a tenu un jour journal et des carnets à partir de 1933, dans lesquels il documente et analyse ce qu'il voit, ce qu'il entend. Le plus remarquable, c'est qu'il parvient à traverser non sans mal ces années jusqu'en 1945, en continuant ce travail d'observation au moment de la défaite. Ces notes qu'il était parvenu à sauver des nazis et des bombardements alliés lui serviront de base à son grand livre sur la manipulation de la langue par l'idéologie. LTI, la langue du Troisième Reich, sortira confidentiellement en 1947. Dans son essai, Frédéric Joly retrace d'abord cette histoire, mais il en tire aussi des enseignements pour aujourd'hui. Si la langue est un révélateur, que dire de notre époque où le repli identitaire et la post-vérité concourent à brouiller le vrai et le faux? Si la langue nazie était marquée par un rapport instrumental emprunté à la mécanique, on constate de nos jours le même rapport instrumental, mais empreint de vocabulaire technique venant de la sphère économique ou du management. On retrouve aussi un ensauvagement de la langue dont il était question en première partie. Jean Birnbaum, la question que nous pose Clem Perrer aujourd'hui et que nous renvoie Frédéric Joly, c'est celle de l'hégémonie de l'opinion sur la raison, de notre rapport aux mots, à la vérité.
Oui, et c'est vrai que l'essai de Frédéric Joly, il y a quelque chose de très émouvant, quoi, même dans son ton, sa scansion, son rythme. Il y a quelque chose de beau dans la façon dont il essaye d'escorter Klemperer, de traverser ses livres. C'est un livre très consciencieux. Cet essai, c'est un livre très comme ça scrupuleux. Frédéric Joly essaie vraiment de citer tous les gens qui ont bossé sur Klemperer jusqu'au plus récent, d'être à jour dans sa bibliographie, et il retrace donc l'itinéraire de Klemperer de façon peut-être un peu trop intellectuel, si j'ose dire, parce qu'il rappelle, c'est d'ailleurs tout à fait lié au sujet dont on parlait tout à l'heure, ce qu'il advient du corps de Klemperer, qui est un spécialiste des langues romanes, qui est un grand spécialiste aussi de la pensée française, de Montesquieu, qui voulait travailler d'abord sur les Lumières, sur Voltaire, sur Rousseau, les Lumières françaises. Il veut travailler sur tout ça, il a plein de projets, il a 50 ans, etc. Et puis boum, arrive le nazisme, il se retrouve physiquement de plus en plus expulsé dans l'impossibilité de parler à ses étudiants, de travailler, d'enseigner, d'écrire, d'aller à la bibliothèque, de faire tout physiquement lui est désormais interdit. Voilà, il faut rappeler ce que ça a donné, ce dont on parlait tout à l'heure. Eh bien, là-dessus, c'est très intéressant parce que c'est une dimension dont Frédéric Joly parle, c'est aussi le rapport à sa femme. Klemperer, sa femme est une protestante, elle s'appelle Eva. Klemperer parlait de ce qu'il appelait sa bigamie confessionnelle.
Là, ouais, lui-même s'était converti au protestantisme.
Puis reconverti, puis déconverti, enfin il a parlé parce que voilà, c'est compliqué. Mais en tout cas, le rapport au quotidien, il y a LTI, il y a ce grand essai sur la manipulation de la langue, sur le poison, à nouveau, hein, on parlait du venin tout à l'heure à propos de l'essai de Gérard Noiriel, c'est le venin, c'est le sous-titre, c'est même le titre de Gérard Noiriel, le venin dans la plume. Klemperer parle de l'idéologie nazie qui va imprégner les mots et les formes syntaxiques de leur poison. Voilà, c'est toujours la question du poison qui se joue. Bien, Klemperer vit ce poison dans son corps. Est-ce que Frédéric Joly montre bien, c'est à quel point Klemperer, et on y reviendra, est à la fois d'une espèce de lucidité totale sur ce qui est en train d'advenir, et en même temps de cécité volontaire. Il dit, je veux continuer dans son journal de persécution, parce qu'il n'y a pas que LTI, il y a son journal, il faut lire son grand journal qui est magnifique, c'est des choses du quotidien.
Qui était publié en 2000,
voilà,
je crois, en France.
C'est les larmes de sa femme, les crises d'angoisse de sa femme, le piano, sa femme est pianiste, et donc il se dit, moi ce que je souhaite de plus beau aujourd'hui, ce que je me souhaite, c'est que ma femme puisse jouer du piano, c'est qu'elle n'ait pas de crise d'angoisse aujourd'hui, pas de crise de larmes aujourd'hui, etc. Et il dit, il écrit, je veux continuer à faire comme si de rien n'était. Travailler, toute autre attitude serait encore plus absurde. Je veux être insouciant, je veux l'être le plus délibérément. Je veux être insouciant jusqu'à l'extrême. Je crois qu'agir ainsi, c'est agir pour le bien d'Eva. Et donc, ce qui se joue en filigrane et qui n'est pas toujours, je trouve, assez souligné dans le livre de Frédéric Joly, c'est pas seulement la trajectoire d'un intellectuel empêché d'être un intellectuel, c'est aussi la trajectoire d'un corps et d'un poète qui espère que la langue demeure capable de dire ce qui est.
Béatrice Bougnol.
Oui, alors je partage en partie ce que vous avez dit. Moi, ce qui m'a beaucoup ému dans ce livre, et c'est pour ça que en revanche, je ne dirais pas qu'il est trop intellectuel en ce sens-là. Ce qui m'a beaucoup ému, c'est le talent, je trouve, qu'a Frédéric Joly pour raconter justement l'imbrication entre la vie personnelle, la vie de couple, qui devient évidemment de plus en plus compliquée jusqu'à impossible. Donc il imbrique ce quotidien de la vie personnelle de Klemperer avec son travail analytique et avec évidemment le cours des événements de plus en plus sombre. Et je trouve qu'il réussit pour moi très bien ce travail d'écriture. Je trouve que d'ailleurs c'est plutôt très bien écrit et de manière extrêmement sensible et sur l'insouciance dont vous parliez. Moi, il y a une phrase de Frédéric Joly qui m'a beaucoup frappée. Il écrit « Tablant en pleine folie collective sur les pouvoirs de la lucidité analytique ». C'est-à-dire qu'en fait, plus qu'une insouciance, il va trouver finalement dans l'analyse raisonnable du langage la seule arme que ce régime lui laisse encore et il va l'utiliser jusqu'au bout.
Oui, la lucidité de l'analyse qui fait que Frédéric Joly rapproche Klemperer, par exemple, d'un George Orwell ou d'autres chercheurs de cette époque, intellectuels de cette époque, qui parviennent à voir leur époque sans tous les filtres des préjugés qui, évidemment, nous habitent tous dans ces moments, enfin, qui nous habitent tous au quotidien. Donc, la lucidité d'un côté, faire comme si de l'autre, comme si on pouvait encore vivre une vie normale quand on est un juif en Allemagne à cette époque-là. Évidemment, le réel se rappelle à lui en permanence Jean Birnbaum, et donc on l'a dit, hein, c'est un philologue Klemperer. Alors c'est pas forcément un terme qu'on connaît beaucoup, la philologie, c'est-à-dire l'étude du langage, de la langue dans son contexte, on pourrait l'expliquer comme ça, le définir comme ça, et c'est en philologue qui regarde l'Allemagne nazie, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la façon, je le disais en introduction, dont la langue véritablement transmet l'idéologie, de quelle façon Jean Birnbaum.
Effectivement, la torsion de la langue, ça, il y a des passages de Bernanos là-dessus. Enfin, il y a beaucoup, sans tous les gens qui veulent, qui essayent d'entretenir un rapport sincère à la langue, sont obsédés par cette question de la trahison, de la spoliation lexicale. Bernanos a des passages magnifiques où il dit, évidemment, un mot ne peut pas se défendre tout seul. Il faut reprendre la langue à zéro. Il faut que nous, on défende les mots, puisque les mots sont évidemment, comme ça, pris en otage par ceux qui veulent en détourner le sens. Donc, quand la langue est sans dessus-dessous, en fait, le bien et le mal sont non plus de différence et on se retrouve dans un monde où il n'y a plus de vérité ni de bien possible. Donc ça, c'est une chose, finalement. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que je pense pas que le livre de Frédéric Joly soit trop intellectuel. Bien que, je pense qu'une des choses que moi, si je l'avais relu, si j'avais été un copain de CM2 ou son éditeur, je lui aurais dit, là, il y a trop de références. Il y a des pages où ici, 3, 4, 5 auteurs par page, comme s'il voulait absolument, qui part d'une très très bonne intention, parce qu'il veut être complet, il veut payer ses dettes,
il veut
oublier personne, et puis il veut montrer qu'il a travaillé, et surtout qu'il rend justice à ceux qui ont travaillé avant lui, ce qui est super. Mais simplement, je pense que dans la façon, dans la forme, parfois, c'est un petit peu difficile de lecture, parce que ici, toutes les trois un nouvel auteur, comme le dit un tel. Donc ça, c'est un petit peu... Bon, ça, c'est une incise, mais globalement, je pense pas que le livre soit trop intellectuel. C'est juste que il a tendance à faire de Klemperer un tout petit peu trop un intellectuel. Or, en fait, moi, ce qui me frappe, c'est justement que Klemperer, quand on le lit de près, évidemment, il est philologue de formation, il est philologue de profession, mais pour moi, c'est d'abord un poète. C'est d'abord quelqu'un qui veut entretenir un rapport sincère à la langue. Dans son journal, il y a des passages magnifiques où il passe son temps à s'observer, à s'auto-fliquer, à s'auto-surveiller pour voir comment... Qu'est-ce qui peut ne pas apparaître comme sincère au moment où il croit être sincère, quand il a telle ou telle mimique, telle ou telle manière de se taper sur le torse quand il s'adresse à quelqu'un, et où il dit « Ah, ça, c'était un peu trop théâtral, je voulais mimer la sincérité », alors qu'il faut être juste sincère. Donc l'obsession de Klemperer, c'est de maintenir la possibilité d'une sincérité à l'égard des mots, du langage, à un moment où la langue est massivement investie par le venin, oui, du nazisme.
Alors Frédéric Joly le reconnaît, hein, ce que vous dites Jean Birnbaum, puisqu'il cite par exemple Jean-Christophe Bailly dans l'introduction du livre, du tremblé de la langue, et qui fait bien aussi cette distinction entre la langue et le langage. C'est-à-dire la langue, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, le langage, c'est son utilisation quotidienne, Béatrice Bougnol.
Oui, en fait, il va effectivement analyser les torsions que le nazisme fait à la langue. Comme vous le disiez, en fait, il croit, et c'est pour ça que d'ailleurs le langage est une arme, l'étude, pardon, de la langue nazie est une arme pour lui. C'est-à-dire qu'il croit à la vérité du langage. C'est-à-dire qu'il dit c'est la langue qui dit la vérité d'un temps. Et donc, il essaye d'écrire la vérité du temps qu'il est en train de vivre. Donc ces torsions, on peut peut-être en rappeler certaines parce qu'elles sont frappantes. Déjà, elles sont omniprésentes en fait. Il va dire finalement, c'est pas tellement des mots nouveaux qui apparaissent. Parfois, ces mots, ils étaient là dans la langue depuis longtemps, mais tout d'un coup, ils deviennent synonymes d'une manière de penser et surtout, ils sont répandus de manière massive. Les nazis, dit-il, vont faire de la langue un outil de domestication politique, donc qui est en permanence omniprésent par la radio notamment. Et donc les distorsions vont s'immiscer dans les esprits de cette manière-là. Il note l'invasion de termes techniques dans un domaine où il n'avait pas lieu d'être jusqu'à maintenant, comme le terme révision par exemple. On parle de la révision des professeurs alors que jusque-là on parlait plutôt de la révision des voitures. Il parle de l'emploi de néologismes avec le suffixe brour qui signifie rupture. Il parle aussi de l'omniprésence du verbe erleben, faire l'expérience de vivre quelque chose, de tous les superlatifs, les accents toniques. En fait, il a cette phrase aussi assez remarquable, jamais la moindre déclaration paisible. Donc tout ça, c'est la violence qui est faite à la langue. Et effectivement, vous aviez raison de dire, il est en recherche d'un rapport encore sincère à la langue. Et c'est pour ça que, par exemple, il va cesser d'employer le mot « Europe » parce que, dit-il, le mot a été tellement fourvoyé, blessé par le Troisième Reich qu'il se refuse à l'employer.
Et il a recours d'ailleurs, il y a une très belle image, hein, Klemperer a recours à la tradition juive et à la notion de tréfé ou de trèfle, je ne sais pas comment on dit, qui était un récipient que les juifs de la tradition enterraient pour le purifier. Et il dit, voilà, il y a un certain nombre de mots quand l'Allemagne nazie sera défaite et qu'il faudra enterrer pendant un certain temps pour pouvoir les retrouver dans leur pureté. Il parle de Volk, il parle de Führer, il parle d'Europe, évidemment. Et aussi, chez Klemperer, il y a cette idée que la langue est pourrie jusqu'au discours des opposants. Il dit tous pestaient contre le nazisme et le faisaient dans sa rhétorique. Et c'est vraiment de ça qu'il est question, hein, Jean Birnbaum. C'est la question de la rhétorique qui intéresse aussi Frédéric Joly, donc à travers Klemperer.
Oui, l'adjectif, vous savez, un des exemples qu'il donne aussi, c'est l'adjectif caractérlich. C'est-à-dire, caractériel, comment caractériel devient positif dans la langue nazie. Être caractériel, c'est bien. Comme
quand
être fanatique.
Quand on est dirigé par Adolf Hitler.
Le mot fanatique aussi. Le mot fanatique devient aussi tout à fait positif dans la langue nazie. C'est une rhétorique et en même temps, là aussi, il y a une tension qui est émouvante. C'est-à-dire que, dans son rapport à la langue, il n'y a pas du tout de prise en compte de ce qui échappe dans la langue de l'inconscient, de la psychanalyse. C'est-à-dire qu'effectivement, Klemperer est désespérément et de façon bouleversante un homme du XVIIIe siècle, un homme des Lumières françaises. Et donc, il est dans un rapport très, très rationnel, de recherche d'une lucidité rationnelle, de la raison, etc., de la recherche analytique, etc. Et donc, en fait, il pense qu'il y a cette langue qui est sincère, cette langue pas pure, mais en tout cas sincère, qu'on doit pouvoir quelque part soustraire au venin du nazisme et à son dévoiement par les idées obscures. Or en fait, là aussi, bon, il y a eu quand même depuis tout un tas de travaux pour montrer que la langue échappe, que la langue c'est compliqué. Il y a eu cette formule évidemment célèbre et très contestée de Roland Barthes, on disait la langue est fasciste, etc. Mais il voulait dire en fait aussi dans sa leçon au Collège de France, Roland Barthes, et il voulait dire que la langue est toujours déjà prise dans la fatalité d'un pouvoir et parfois d'une manipulation. Donc c'est très compliqué aussi de soustraire la langue complètement. Donc il y a également effectivement cette chose dans laquelle on est, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure entre Noiriel, Zemmour, etc. C'est que c'est très difficile aussi de se dire mais comment faire pour que la rhétorique des uns et des autres ne soit pas infestée par une langue déjà toujours manipulée, même si bien sûr que la façon dont les nazis ont de façon très très de manière très volontariste investi et manipulé le langage n'est pas comparable avec ce qui se passe à beaucoup d'autres choses. Et d'ailleurs là-dessus, et ça sera, c'est juste pour ouvrir le débat là-dessus, je pense que c'est un des petits points un peu de faiblesse du livre de Frédéric Joly, c'est qu'à chaque fois qu'il essaye de dire qu'aujourd'hui on est à nouveau, mais bien sûr c'est pas pareil, ça n'a rien à voir avec l'époque de Klemperer, mais quand même aujourd'hui on a un rapport à la vérité, un rapport à la langue qui est aussi dénaturé, etc. Il s'aventure dans des choses qui sont trop abstraites pour être convaincante. Ça reste au niveau des grandes généralités. Et là, il y a quelque chose qui est un peu manqué. Et en même temps, je trouve que c'est positif parce qu'il n'a pas voulu, voilà, lui n'a pas voulu rabattre notre contemporain sur l'époque nazie.
Oui, c'est vrai que Frédéric Joly parle, puisque l'essentiel du livre, hein, est évidemment sur Klemperer. Il y a une petite partie, donc Klemperer et l'Allemagne nazie. Après, il y a une toute petite partie sur Klemperer face au soviétisme, puisqu'il se retrouve à l'est du rideau de fer. Et une toute dernière partie assez courte, en forme de conclusion, on pourrait le dire, Béatrice Bougnol, sur notre époque, sur la dégradation d'une langue cultivée à une langue de croyance. C'était ce que voyait Klemperer, c'est ce que voit Frédéric Joly aujourd'hui et il en appelle à une forme d'hygiène démocratique, toujours vérifier, tester la qualité de notre langage, le langage qu'on utilise. Ce serait la leçon de Klemperer pour aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est une deuxième partie, comme vous le dites, qui est beaucoup plus resserrée que la première. Et je rejoins en partie, effectivement, Jean-Marie Monde sur sa réserve, parce que en fait, on aurait, j'allais dire, envie de lire des carnets de la qualité de Klemperer sur notre langue aujourd'hui. Et on est un peu frustré de ne pas avoir ça après avoir goûté au travail de Klemperer. Mais il y a une chose qui m'apparaît très, très importante et qui fait le lien entre les deux parties. C'est l'idée que la langue est une histoire, en fait. La langue est un trésor commun, une histoire commune. Et que donc, quand on lui fait violence, comme le Troisième Reich l'a fait, on fait violence à chacun dans son rapport à la langue. Et je trouve que Frédéric Joly, qui là, on retrouve d'ailleurs le traducteur qu'il est aussi par ailleurs, et il est notamment traducteur de Jan Werner Müller, qui aujourd'hui parle du populisme, donc il est très conscient des dangers qui menacent nos démocraties aujourd'hui. Quand il parle du langage contemporain, en fait, l'idée qui me paraît en revanche très intéressante, c'est celle d'amnésie. C'est-à-dire que finalement, il y a une amnésie de notre langue contemporaine, l'amnésie des élites qui ont une langue de plus en plus opaque, noyée dans des termes techniques, mais qui sont incapables de voir, par exemple, que le mot système a une histoire et qu'il a une histoire depuis justement le Troisième Reich. Et puis l'amnésie des réseaux sociaux, de l'absence totale de mémoire orthographique et grammaticale. Donc ce lien-là, je trouve qu'il est assez intéressant. Voilà.
En fait, je suis d'accord en partie, mais aussi tout à fait en désaccord. Parce que moi, quand j'entends aujourd'hui, alors je vais dire des banalités affligeantes, mais quand j'entends beaucoup d'adolescents aujourd'hui, je trouve qu'ils ont une langue magnifique. Quand on voit l'inventivité du rap français, je trouve qu'il n'y a pas du tout d'amnésie, au contraire, une manière de s'inscrire dans toute une tradition, d'une puissance oratoire, incantatoire, lexicale, etc. Un jeu, un amour. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, il y a longtemps, dans le temps de ma lointaine jeunesse, j'écoutais Skyrock, il y avait cette émission qui s'appelait Planète Rap, qui existe encore, et où il y avait des jeunes, c'était avant les téléphones portables, il y avait plein de jeunes qui allaient dans leur cabine téléphonique, qui appelaient et qui faisaient des freestyles, des improvisations de rap comme ça au téléphone. C'était magnifique, des jeunes qui avaient travaillé pendant des heures. Donc, si vous voulez, et les réseaux sociaux, n'en parlons même pas. Vous avez des jeunes de 15-16 ans qui, sur Facebook ou sur Twitter, font des morceaux de bravoure. Pas que, il y a aussi ce que vous dites. Mais il n'y a pas que ça. Donc aujourd'hui, là-dessus, effectivement, j'aurais voulu quelque chose de plus convaincant parce que moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, il y ait tellement une amnésie, un saccage de la langue.
Même si ce que montre bien Frédéric Joly à travers Klemperer, c'est que la question n'est pas vraiment la langue au niveau individuel, mais plutôt son usage collectif. Et c'est peut-être là-dessus qu'il peut vous répondre, Jean Birbaume, si je me fais son porte-parole. Béatrice Bougnol, juste en quelques mots, puisqu'on arrive vraiment au bout de l'émission.
Oui, non, juste, effectivement, je pense que ça n'empêche pas la créativité contemporaine. Simplement, c'est encore une fois un appel à la vigilance, finalement, je pense. C'est-à-dire que pour moi, Frédéric Joly nous dit, voilà, regardons, étudions notre langue, ses évolutions, ses distorsions, et peut-être par effectivement son amnésie à certains moments, ce qui n'empêche pas effectivement que son usage soit encore créatif de nos jours.
Frédéric Joly, La langue confisquée, lire Victor Klemperer aujourd'hui, c'est donc aux éditions Premier Parallèle.
L'instant critique.
C'était de livres très intéressants ce soir. Donc pour l'instant critique, il ne nous reste plus que quelques instants. Vous êtes venus tous les deux avec des livres, un gros livre, Béatrice Bougnol.
Oui, un gros et beau livre, en fait. C'est celui de Nicolas Offenstadt qui s'intitule Urbex RDA, l'Allemagne de l'Est racontée par ses lieux abandonnés. Nicolas Offenstadt, donc, qui est un historien tout à fait reconnu, notamment de la Grande Guerre, mais qui aussi étudie beaucoup l'histoire contemporaine de la RDA, a fait ce qu'on appelle de l'exploration urbaine, c'est-à-dire que il s'est introduit dans des lieux abandonnés de l'ex-RDA et il en a ramené des photos. Des photos des lieux, les photos des archives qui sont parfois restées dans ces lieux. Et évidemment, il en fait l'analyse et il construit comme ça l'histoire de ce pays disparu il y a maintenant 30 ans et toujours aussi méconnu.
Il était venu en parler sur France Culture, à la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin à l'époque. Ça se retrouve, je pense, en podcast. Jean Birnbaum.
Moi, je peux pas dire un mot là-dessus, ne pas dire un mot là-dessus. J'ai passé 4 jours avec Nicolas, qui est un, je peux pas non plus le cacher, un grand ami. On avait passé 4 jours dans l'ancienne, dans l'ex-RDA à faire ce. Il m'a baladé un peu partout dans ces zones dont
vous êtes l'auteur des photos.
Je suis pas l'auteur des photos, mais on avait fait des photos, voilà, et on avait notamment parlé de Klemperer d'ailleurs, parce que Nicolas a beaucoup de choses à dire sur le rapport de Klemperer à la RDA, parce que c'est aussi un sujet dont on n'a pas abordé. Moi, je voulais vous parler de complètement autre chose, de Querelle. C'est un roman. Querelle, c'est un roman d'un jeune Québécois qui s'appelle Kevin Lambert, et c'est un roman qui raconte une grève dans une scierie au Québec et qui introduit la question sexuelle, la question homosexuelle, qui plante la question homosexuelle, si j'ose dire, au cœur de la question sociale. C'est un roman magnifique de sincérité, d'élan, et c'est comme si, si vous voulez, pour dire les choses, dans notre politique, justement, c'est la question du langage. C'est comme si tout d'un coup, notre langue politique prenait en compte la question de l'inconscient, la question du corps, la question de la sexualité. C'est comme si, vous savez, ces vidéos où on voit François Ruffin dans sa cuisine qui parle de Macron, des lois, etc. C'est comme si tout d'un coup, Kevin Lambert, mais aussi Zola, Guillaume Dustan, Mallarmé et d'autres débarquaient dans la cuisine de François Ruffin pour lui dire, mais écoute, François, dans ta cuisine, il n'y a pas que de la politique.
Et alors, Kevin Lambert, c'est publié chez...
C'est au Nouvel Attila, jeune et indépendant.
Excellente maison d'édition. Merci beaucoup à tous les deux. Avis critique, c'est terminé. Attaché d'émission, Catherine Donnet à la réalisation. Aujourd'hui, c'était Vanessa Nadjar et à la prise de son, Mathieu Touron. Cette émission, vous pouvez la télécharger et la réécouter sur notre site franceculture.fr. Dans quelques instants, Jukebox.